Bonjour Yazid,
Bonjour.
merci de nous recevoir chez toi. Et dans le cadre de notre mission de la Fondation Abbé Pierre, en partenariat avec le Crédit Coopératif et Appui, nous faisons des podcasts de tous les intervenants sur la place publique, et toi notamment dans le cadre de tes médiations nomades. Et donc, on a quelques questions à te poser et aussi ton analyse par rapport à la crise de Covid qu'on a vécue cette année.
Du coup, est-ce que tu peux commencer juste par nous parler un petit peu de toi et de Médiation Nomade? Comment tu as créé l'association, pourquoi et quelle est son action?
Bah, disons que moi j'ai plusieurs casquettes. Premièrement, j'ai une casquette professionnelle. Je suis consultant en prévention urbaine, donc je suis spécialisé sur la prévention de la délinquance. Deuxièmement, je suis enseignant à l'Université de Nanterre en master des sciences de l'éducation. Troisièmement, je travaille beaucoup en milieu carcéral, en prison, où je fais des débats dans le cadre de la prévention de la récidive. Quatrièmement, je suis membre du Conseil économique et social régional. Et cinquièmement, je suis fondateur et directeur d'une association qui s'appelle Médiation Nomade.
Super. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Médiation Nomade?
La Médiation Nomade, ça existe. C'est une association qui existe depuis 2012, qui a commencé à Clichy-sous-Bois, au quartier du Chêne Pointu. Mon objectif, c'est de réinvestir l'espace public par des adultes bienveillants, parce qu'on a remarqué que, en général, dans beaucoup de quartiers de France, les jeunes sont seuls le soir. Il n'y a plus d'adultes, plus de pères. Et donc, ils sont qu'entre eux, quoi. Deuxièmement, il y a très peu de professionnels qui travaillent le soir, à part la police, hein, ce qui est anormal. En même temps, la plupart des centres sociaux, des maisons des jeunes en France ont des horaires de mairie. 9h midi, 14h 18h, fermé la nuit et le week-end. Or, quand on regarde les statistiques de la violence, de la délinquance, des suicides, des accidents de la route, c'est souvent le soir et le week-end. Et donc, il n'est pas normal de laisser seuls les jeunes face à la police en même temps. Donc, je pense que c'est à nous, services publics, de nous adapter au public et non pas le contraire. Deuxièmement, l'objectif de la médiation nomade, c'est de retisser du lien, parce qu'on s'aperçoit que les gens vivent de plus en plus dans des mondes séparés. Les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres, les blancs, les noirs d'un côté. Tout ça, donc on vit de plus en plus dans des mondes séparés, donc on n'est plus ensemble, on vit côte à côte, quoi. Donc c'est retisser du lien, remettre les gens les uns et les autres. Et puis, autre objectif, c'est la parole est plus forte que la violence. C'est-à-dire qu'il y a souvent des problèmes dans les quartiers parce qu'il n'y a plus de parole, quoi. Il n'y a plus de parole, il faut que les gens parlent. Ils ont besoin de parler, y compris quand sortir leur colère, leur haine, parce qu'ils ont de la haine. Et plus ils en sortiront, plus ils vont parler, mieux ça ira. C'est une façon de diminuer la violence. Parce que s'ils ne parlent pas, au bout d'un moment, la violence, elle explose. Donc c'est remettre la parole au centre. Autre objectif, c'est de réinterroger les pratiques professionnelles. Je trouve que les professionnels ne sont pas de bons professionnels. Pour certains, il y a un dysfonctionnement en France à ce niveau-là. Je trouve qu'ils ne sont pas très bien formés. On peut regarder la police, on peut regarder parfois les éducs, les animateurs et autres. Ils ne sont pas suffisamment bien formés à la réalité de ces quartiers. Et réinterroger, est-ce qu'ils sont efficaces ou pas? Hein, qui se posent la question. Quand tu vois parfois des maisons des jeunes, et puis il n'y a personne à l'intérieur, alors que dans la rue, il y a énormément de jeunes qui traînent, qui ne viennent pas à l'intérieur, il faudra se poser la question. La majorité des gens sont sur l'espace public et non pas dans les structures, quoi. Et puis, autre objectif, il y a beaucoup de jeunes qui sont le soir sur l'espace public, donc il faut s'en occuper. Il faut les aider. Certains, c'est le travail, certains, c'est des problèmes psy à régler, choses comme ça, mais il y a plein de monde de soir. Il faut régler. Voilà tous les objectifs de la médiation nomade. On est bien soutenu par l'État qui nous soutient. Et c'est les villes qui font appel à nous, parce que pour s'installer sur l'espace public le soir, il faut un arrêté municipal, c'est obligatoire. Donc on est obligé de d'abord respecter la loi, et donc on s'installe à la demande des villes. On en a à peu près à 375 soirées en France, beaucoup en région parisienne. Département où on voit le plus, c'est quand même le département du 93, mais on a fait la région lyonnaise, la région du côté de Metz, on a fait Nantes, on a fait les quartiers nord de Marseille. Donc après, on n'est qu'une petite association, on est juste un poste et demi. Moi, je suis à mi-temps, mon frère est à plein temps, et on a une secrétaire qui est à tiers-temps. Voilà, donc voilà, pourtant, on est une association nationale à ce niveau-là, quoi.
D'accord.
Enfin, l'objectif, quand même, de la médiation nomade, c'est un peu un local à roulette. On s'installe le soir, on fait du thé, de la musique, des jeux de société pour accueillir le public, et puis on passe du temps avec le public, et puis on demande aux acteurs d'être présents, aux élus d'être présents. Écoutez, tout le monde parle des jeunes sans les voir, donc arrêtez de parler des jeunes sans les rencontrer, ils sont là, donc. Parler ensemble. Vraiment, le concept de médiation nomade, c'est provoquer la rencontre pour se connaître pour se respecter pour vivre ensemble. Ça, vraiment, la notion, c'est le vivre ensemble, quoi.
Bon, comme tu sais que notre mission elle est axée sur les Yvelines, le département des Yvelines, c'est l'un des départements les plus riches de France. Et c'est le département aussi, notre étude l'a montré, qui est le moins, il y a moins de répartition, c'est-à-dire entre les riches et les moins riches. Et c'est aussi un département où il y a beaucoup de quartiers HLM ou quartiers d'habitat social. Et nous, on s'est rendu compte pendant notre mobilisation, pendant notre enquête, que les jeunes ont joué un rôle extraordinaire dans la période du Covid. Est-ce que toi, tu as ressenti la même chose? Parce que la dernière fois, quand on s'était rencontrés, tu avais beaucoup de demandes de la part de militants de ville et tu ne pouvais pas répondre parce qu'on a été privé de nos actions, de nos déplacements et avec le confinement et tout ça. Est-ce que tu penses que cette crise aujourd'hui, elle a démontré, elle a ouvert les yeux aux gens que cette solidarité qui existe dans nos quartiers entre les jeunes, est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui a été ressenti par les pouvoirs publics?
Je pense oui, parce qu'il y a des solidarités qui ont été médiatisées. Après, ce n'est pas tous les jeunes, c'est une partie des jeunes qui se sont investis. D'autres ne se sont pas du tout investis. Il y en a qui ne s'investissent pas. On est dans une société individualiste. Oui, parce qu'ils ont remarqué qu'au bout d'un moment, qu'on a tous une part de responsabilité. Il y a une prise de conscience et beaucoup de personnes, notamment des jeunes, se sont mobilisées pour aller à la rencontre des personnes en difficulté, quoi.
Une autre question complémentaire, c'est aujourd'hui nous voyons le rapport entre jeunes et police qui devient de plus en plus conflictuel, de plus en plus, j'allais dire, un rapport de force qui. Et dans ma tête, je me disais, il y a 110 000 policiers en France et on a 5 millions de jeunes en France. Et est-ce que j'allais dire, cette différence entre les 5 millions de jeunes et les 110 000 policiers, je ne dis pas tous qui sont mauvais, je ne dis pas tous qui sont bons, est-ce qu'il existe par exemple un espoir d'essayer d'un jour de les mettre tous autour de la table, mais pas au niveau local, mais au niveau national, pour essayer de voir un petit peu les maux et MAX qui ne vont pas chez les uns et chez les autres?
Oui, après, ce n'est pas qu'une histoire de jeunes, c'est une histoire d'habitants, quoi, d'adultes et des jeunes. Oui, mais en France, il y a beaucoup d'institutions qui acceptent de se remettre en cause. La police ne se remet jamais en cause. En France, on a vraiment un problème avec la police qui accepte de pas de se remettre en cause. Je pense que les policiers ne sont pas adaptés à travailler dans les quartiers. Hein, leur formation n'est pas suffisamment adaptée à cette réalité. Il y a peu de dialogue, ils parlent de dialogue, mais il n'y a pas. Moi, j'organise souvent des rencontres jeunes police. On en a fait une samedi à Clichy, sans policiers. On n'a pas trouvé de policiers qui veulent participer, donc ils peuvent tenir tous les discours qu'ils veulent. On n'arrive pas, on appelle les commissariats, ils disent non, on ne peut pas là, vous lâcher les policiers. D'abord, il y a le droit de réserve, mais le droit de réserve, tu as le droit de parler, quoi. On a appelé les syndicats, pareil. Donc, la police, actuellement, non, elle n'est pas prête à dialoguer avec l'habitant. Donc, il y a des grandes phrases qui sont dans les ministères et sur le terrain. Les gens ne veulent pas parler, alors que les jeunes et les habitants veulent vraiment parler aux policiers, y compris dans le conflit. Hein. Le conflit, c'est pas négatif, c'est la violence qui est négative en même temps, quoi. Non, on a vraiment un problème à ce niveau-là, avec la police, quoi.
Donc finalement, la relation conflictuelle entre jeunes et police, c'est plus un symptôme d'un dysfonctionnement plus global, quoi. C'est ça qui
Oui,
est un peu
oui, il y a un vrai malentendu. On a besoin de policiers. En France, il y a des lois. Les lois nous permettent de vivre ensemble. Le rôle de la police, c'est de faire respecter la loi. C'est tout à fait normal. Mais il manque du dialogue. N'oublions pas que la police est un service public que nous payons avec nos impôts. Donc, ils ont des comptes à nous rendre à nous. En tant qu'habitants, ils ne rendent jamais des comptes aux habitants. C'est pour ça que il faut que de ce côté-là, ça revienne. Non, il y a un gros boulot à faire à ce niveau-là, quoi.
Je ne sais pas si tu te rappelles, Yazid, au mois d'avril et mai, il y avait des violences dans certains quartiers, je ne vais pas les citer pour ne pas les stigmatiser, on était au téléphone. Et donc, nous, en se déplaçant sur les quartiers, on s'est fait un jour interpeller par la police qui nous disait que c'était vous, les associations, qui foutaient la merde. En soutenant ou en venant en soutenir. Et donc, nous, associatifs, on s'est retrouvés comme des coupables, quoi. Alors que nous venons juste être des tiers facilitateurs entre la police et les jeunes. Que penses-tu de cette accusation de dire c'est vous les associations en gros, qui mettez de l'huile sur le feu?
Ça montre qu'il y a une incompréhension, ça montre qu'il n'y a pas de dialogue. S'il y avait du dialogue entre la police et les associations, ça ne se passerait pas comme ça. Il y a un vrai malentendu. Et donc, comme il n'y a pas de dialogue, donc ils interprètent ce qu'ils veulent en même temps. Donc, il y a un vrai problème à ce niveau-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que les associations, les institutions apprennent à discuter ensemble, quoi. Les associations, ce sont des experts sur les quartiers, ils connaissent très très bien, ils savent ce qu'il faut faire, ils ont des idées, des choses comme ça, mais à un moment donné, il faut que l'institution accepte de descendre de son piédestal et se mettre au niveau des habitants et savoir, écoutez, on n'avancera pas s'il n'y a pas ce dialogue et cette compréhension mutuelle des uns et des autres, quoi.
Et comment qu'on peut espérer ou voir un espoir de changement dans ça? Parce qu'on a des générations, on a des enfants aujourd'hui qui grandissent et qui se rendent compte aussi qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre les institutions et la population. Et qu'est-ce qu'on peut préconiser? Qu'est-ce que tu vois comme truc qu'on peut faire modifier, changer rapidement pour au moins faciliter les choses?
Rapidement, c'est un peu difficile, mais chacun fait ce que vous faites, c'est super important de le faire. Ce que je fais, médiation normale, c'est super important. Continuons à agir, ne baissons pas les bras, mais en même temps, il faut médiatiser davantage ce qu'on fait, et puis il faut atteindre le pouvoir, le politique, il faut vraiment que le politique accepte d'écouter un petit peu les gens de terrain, quoi. Non, c'est ça, il y a vraiment une raison politique, mais en même temps, je dis toujours que le problème des jeunes, c'est d'abord un problème d'adultes, il faut d'abord régler le problème chez les adultes. On a les jeunes qu'on mérite, parce que je trouve que les adultes en France sont assez défaillants, quoi.
Tu parlais beaucoup de recréer du lien, recréer du discours, essayer de faire remonter un peu toutes les bonnes volontés jusqu'au niveau du politique, on a dit ça tout à l'heure. Mais toi, par exemple, quand tu interviens, c'est à la demande des mairies, c'est ça?
Oui.
Du coup, ça veut bien dire que le pouvoir local, en tout cas, il est au moins conscient qu'il a besoin de ton intervention, au moins, il est plus ou moins sensible. Ouais. Comment expliquer dans ce cas qu'une mairie, elle, soit volontaire, mais qu'une police ne soit pas prête à faire l'effort? Sur un secteur local, on a des élus qui sont volontaires, qui te demandent de venir. Comment expliquer qu'on a cette volonté politique locale forte et que pourtant on n'arrive pas à faire converger tous les acteurs?
C'est deux institutions différentes. La politique est garant de la tranquillité publique, la police est garant de la sécurité publique. C'est une institution complètement différente qui est autonome en même temps et il n'y a pas forcément ce partenariat en même temps. Donc c'est au niveau politique, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est à lui de remettre en cause un petit peu le fonctionnement de la police en France et d'accepter de changer, quoi. Regardez, il y a eu le Beauvau de la sécurité. Sachez qu'il n'y a eu aucun sociologue dans le Beauvau de la sécurité. Ouais, aucun. Ils n'ont pas voulu. Ils veulent pas d'études scientifiques, de professionnels là-dessus. Donc, ils ont fait le Beauvau de la sécurité qu'avec des experts en sécurité, qu'avec des policiers. Comment voulez-vous en sortir? Il n'y a pas d'habitants de quartier, il n'y a pas de personnes comme ça. Donc, pour moi, c'est une erreur, quoi. Mais parce qu'il n'y a pas de remise en cause de la police, quoi.
Il y a quelque chose qui est très important, Yazid, parce qu'on est de la même génération, donc on a vécu la même chose. Nous, on a connu une police de proximité qui venait rencontrer les associations dans les quartiers. Je me rappelle d'une commissaire de police qui s'appelait Madame Bertrand. Bon, c'est pas généralisé, mais qui venait rencontrer les associations dans les quartiers, de dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, sur quoi on peut travailler, sur quoi on peut pas travailler. Et ça fonctionnait, je ne veux pas dire bien, mais ça fonctionnait, il y avait des échanges. Est-ce que tu crois que remettre en place cette police de proximité aujourd'hui, qui peut tisser un lien social, qui peut tisser, parce que je reviens à la mission, nous on s'est rendu compte que dans les quartiers, il y avait des gens qui mouraient de faim, quoi. On a trouvé des solutions, des situations dramatiques dans les quartiers. On avait des gens qui n'avaient même pas de quoi manger. Est-ce que s'il y avait une police de proximité qui imprégné dans le quartier, accepté dans le quartier. Et est-ce que tu crois qu'on pourrait créer un système d'entraide réciproque entre les habitants et cette police et les institutions? Parce que aujourd'hui dans les quartiers, qu'est-ce que disent les gens? La police, c'est de la répression. Ils viennent pas nous voir. Ils viennent juste mettre des PV. Il vient juste faire le tour. Je me rappelle d'une image, 1 minute 48, les gens ont filmé la police, le tour qu'elle fait dans le quartier, 1 minute 48. Donc, est-ce que tu crois que la police aussi n'a pas oublié un rôle social qu'elle devrait avoir? Parce qu'au début, on disait pas force de l'ordre, on disait gardien de la paix.
Non, il manque une police de proximité. Une police de proximité, c'est une police qui est là en temps de paix. Aujourd'hui, on n'est que dans la police secours, c'est-à-dire qu'elle intervient seulement quand il y a des problèmes. Il faudrait qu'elle soit là. Si en temps de paix, qu'on tisse des liens, il peut en temps de guerre. Donc elle est forcément toujours dans le conflit, puisqu'elle intervient toujours à ce moment-là. Après, je n'accuse pas seulement la police. Je trouve que sur l'espace public, il y a peu d'acteurs. Ils sont tous dans une institution. Les éducateurs sont dans leurs locaux. Les animateurs sont dans la maison des jeunes. Mais dans la rue, dans la plupart des quartiers de France que je me balade, non, c'est le rôle de tout le monde, quoi. La police, son rôle, ce n'est pas forcément faire du social. un peu aussi un peu enfer, mais c'est que tout le monde a abandonné l'espace public. C'est surtout l'espace public où il n'y a pas grand monde, alors que la majorité des individus sont sur l'espace public. Il faut remettre des adultes sur l'espace public à ce moment-là, quoi. Et remettre une police de proximité qui soit proche des habitants et qui soit là en temps de paix et qui tisse des liens. Parce que comme ça, en temps de guerre, elle peut intervenir puisqu'elle les connaît. Elle n'a pas besoin de leur courir derrière, elle reconnaît le mec en moto ou des choses comme ça. Donc, non, après, on est dans un gouvernement de droite, la police de proximité, c'est une idée de gauche, donc pour eux, c'est une insulte. C'est pour ça qu'ils ont mis la BTS, Brigade Territoriale de Sécurité. Ils ne veulent pas entendre le mot proximité, mais tout le monde en parle. Je pense qu'il faut revenir à une police de proximité, quoi, qui soit là régulièrement, quoi, et qui fait le tour des associations, les gens, et puis quand ils voient une situation qui ne va pas, y compris des gens qui ont faim ou des choses comme ça, ils peuvent aussi le remonter puisqu'ils sont sur l'espace public, quoi.
Beaucoup de jeunes aujourd'hui, ou moins jeunes responsables associatifs en France, discutent de faire un Grenelle des quartiers populaires, mais sans les politiques, parce qu'ils n'ont plus confiance aux politiques. Et donc, ils veulent travailler sur un Grenelle concernant la police, concernant le vivre ensemble, concernant le Covid, concernant beaucoup, beaucoup de thématiques. Est-ce que tu crois que c'est une bonne idée?
Ouais, j'ai déjà participé plusieurs fois aux assises des banlieues, qu'on a fait et tout ça. Le problème, c'est qu'entre nous, on a du mal à se mettre d'accord, quoi. Il y a des égos, il y a des choses comme ça, donc on est d'accord pour pas être d'accord, quoi. Non, il y a trop de... Il y a des gens qui ne seront pas honnêtes, hein. Il y a des gens qui ont d'autres visées et tout ça. Mais en tout cas, non, il est très important qu'on se réunisse tous, qu'on fasse quelque chose, qu'on crée une vraie force, peut-être une force politique, des choses comme ça, mais qu'on puisse... Ça, ou refaire une marche, ou les choses comme ça, mais à un moment donné, on est tous dans la même situation, on est tous dans la même merde. Donc à un moment donné, on doit se mettre ensemble d'une manière intelligente, en dehors des égos et tout ça, et qu'on fasse, avec tous les gens de bonne volonté, quelque chose, tous ensemble, en même temps, quoi.
Penses-tu que d'ici une dizaine d'années, est-ce que le monde associatif vivra, survivra à tout ça? Parce qu'on se rend compte de moins en moins d'associations sont subventionnées, qui n'existent plus, qui disparaissent. Est-ce que tu crois que d'ici une dizaine d'années, on pourra toujours compter sur une fibre sociale dans le quartier populaire?
Je sais pas, en tout cas, il y aura toujours des gens qui sont dans la solidarité. Les associations sont de plus en plus instrumentalisées par les politiques. Les politiques te donnent de l'argent si t'aimes, si t'aimes pas, ils te donnent pas. Donc on est coincé avec ce système. Mais moi, je crois en l'être humain, en dehors des associations, des institutions. On est tous des humains et que beaucoup de personnes continueront à tendre la main, aller vers l'autre, à soutenir, que ce soit associatif ou pas, mais qu'on soit vraiment tous, qu'on continue à être dans la solidarité, quoi.
Et puis le Covid l'a démontré, la crise, le confinement du Covid l'a démontré, que la solidarité informelle, c'est-à-dire dans les quartiers ou sans association, c'est ce qui a fonctionné le meilleur, c'est le meilleur qui a fonctionné.
Oui, ça, c'est ça qui a été remarquable pendant les gens entre eux, hein, même mon fils, hein, ils ont été préparer des sandwichs, ils ont été dans le quartier, ils ont été à Mantes et tout, mais beaucoup de jeunes comme ça, d'une manière désintéressée, ils ont été sur le terrain, puis étaient les autres. C'est pour ça que je crois encore à l'être humain. Je ne crois pas au système, mais je crois en l'humain. En l'humain, l'humain, il est à l'intérieur de lui, il est bon. Donc forcément, la bonté a sortira à un moment donné, que les gens ils continueront à soutenir des personnes en difficulté, quoi.
Merci pour ces belles phrases, Yazid. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci de nous avoir reçus et puis à très bientôt.
À bientôt.